est tous un petit peu déçus par ce qui s'est passé. Et c'est vrai que bon, maintenant, c'est à l'opinion publique de ne pas faire un petit peu l'amalgame avec, avec un groupuscule de fouteurs de merde. N'ayons pas peur de le dire, parce que c'est ce qui s'est passé. On nous ont brisé notre rêve, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Moi, je sais que personnellement, j'y pensais. Ça fait dès l'annonce qu'on allait affronter l'équipe de France, j'y pensais fortement et j'avais espoir en ça. Et je pense que c'est un petit peu mon rêve gâché, quoi, à moi et à toute l'équipe d'Algérie et à tous ceux qui nous soutiennent et à toute l'Algérie.
France-Algérie, le match impossible. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Thomas Duterre. Deuxième épisode, le malaise.
C'est dur, quoi. C'est quand même dur. Alors bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quand même cette tendance-là dans beaucoup de matchs où les hymnes des équipes adverses sont sifflés.
Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Donc on se dit, bon, c'est bon, ça fait partie du, un peu du folklore autour d'un match, les supporters sifflent les hymnes de l'équipe adverse. Bon, on veut penser que ça ne va pas aller plus loin que ça. Surtout qu'à ce moment-là, moi je suis en tribune officielle, donc je me retourne, je vois qu'il y a des mouvements, je vois que ça bouge, je vois que le Premier ministre n'est pas content du tout. Enfin, bon, on sent déjà qu'il y a quand même beaucoup de crispation et de tension au sein de la tribune.
La Marseillaise couverte par les sifflets, ça m'emmerde. Excusez-moi, je ne vois pas d'autres termes. Ça m'agace, pour des raisons strictement sportives, on ne siffle pas l'adversaire. Et puis pour des raisons plus citoyennes, j'allais dire.
Mouloud Haddad, sociologue.
C'est des choses qui ne se font pas. C'était vraiment, vraiment embêtant.
La quasi-totalité du stade siffle l'hymne français, j'ai eu honte. J'ai eu honte tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que j'aurais pas aimé qu'on siffle l'hymne algérien.
Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football.
C'est comme si en fait on jouait à Alger contre l'équipe de France et qu'il y avait 100 000 spectateurs au stade du 5 juillet qui sifflaient l'hymne algérien. Ça, c'est juste pas possible.
La composition de l'équipe de France, l'hymne national, la Marseillaise, l'équipe de France copieusement sifflée tout au long de la rencontre. Le match de la réconciliation, le premier depuis les accords d'Évian en 62, mais aussi et surtout donc la fête gâchée.
Ça n'arrive jamais. Quasiment jamais qu'un Premier ministre aille à un match amical. Le Premier ministre va voir l'équipe de France, mais elle va voir l'équipe de France quand il y a d'abord, ou alors pour une finale de la Coupe de France.
Gilles Smadja.
Ou pour un enjeu important, mais pas pour un match amical. Et donc, si le Premier ministre est là, c'est d'une certaine manière pour affirmer que le gouvernement tout entier assume et revendique l'organisation presque de ce match. Ça montre bien que c'était plus un acte politique qu'un acte sportif. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui a un peu faussé les choses, quoi. D'ailleurs, le président de la République à ce moment-là, Jacques Chirac, lui, il ne vient pas au match. Il le sait, et sans doute ses collaborateurs le lui disent, qu'il y a des risques. Et donc c'est pour ça qu'il ne vient pas.
Moi, vu ce que j'attendais de ce match-là, ça commence mal.
Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football.
Pour moi, c'est un match qui doit quelque part nous rapprocher, réfléchir ensemble, sortir de ce match tous plus intelligents. Et si ça commence par effectivement les sifflets, ben je comprends. Mais je sais que la grande majorité des gens ne vont pas prendre le temps de comprendre.
La Marseillaise, au cœur du débat politique, l'hymne national, vous le savez, a été sifflé samedi soir au Stade de France par quelques centaines de personnes avant le match France-Algérie. Dans le contexte de ces dernières semaines, les réactions sont de plus en plus nombreuses. L'affaire a été évoquée pendant une bonne partie de la séance des questions à l'Assemblée tout à l'heure. Écoutez par exemple Charles Herman, il est député démocratie libérale des Alpes-Maritimes et doyen de l'Assemblée.
Je vois lors du match des milliers de spectateurs siffler la Marseillaise. J'en ai pleuré. Lancé. Oh, et alors ? Ayez mon âge et vous verrez ce que c'est que la France. Lancé des bouteilles en plastique. Ah, si on apprenait davantage la Marseillaise à l'école, peut-être que les applaudissements auraient couvert les sifflets.
Pour avoir été présent au stade, les sifflets ont vraiment été le fait de la frange la plus jeune et donc la plus nombreuse, hein, des supporters algériens.
Mouloud Haddad.
Cette frange la plus jeune des supporters algériens, elle est née ici, scolarisée ici, socialisée ici. Et c'était une façon de montrer son... Oui, c'est une attitude de jeune. Il ne faut pas minimiser, il ne faut pas banaliser ce genre de geste. Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire non plus. C'est des jeunes qui n'ont connu que la France, qui ne connaissent que la France. Et oui, c'est une façon de dire leur place, de leur non-place, le fait d'être pas forcément considéré comme il se doit. Peut-être que ces jeunes avaient peut-être de l'avance, en fait, en réalité. Et on sentit que 98 était peut-être, tout ce qu'on a dit sur 98, la glose produite par la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, avec ce slogan terrible, finalement, Black Blanc Beurre, peut-être qu'ils ont anticipé ça, finalement. Ce sont des enfants de 98, hein. Des enfants de la génération Zidane. Et voilà, il y a une figure de proue qui s'appelle Zidane, mais derrière, il n'y a rien. Peut-être que c'était ça aussi les sifflets.
Pourquoi des jeunes Français, des jeunes Françaises sifflent la Marseillaise? C'est ça la vraie question. Et la vraie question, c'est que peut-être que, en fait, c'est une demande d'être aimé. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être qu'il y a un malaise, il y a un mal-être, et que c'est ce mal-être qui emmène à faire ça. Et, encore une fois, je peux le comprendre.
Lilian Thuram.
C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans les banlieues, j'ai vécu aussi ce regard porté sur moi. Et donc, je sais ce que c'est. Et en fait, vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez besoin d'être aimé. Mais il faut que les politiques puissent vous le dire. En disant, oh, attention, hein, vous êtes français, française. Et vous avez toute votre légitimité ici. Et si quelqu'un vous dit le contraire, eh bien, cette personne n'est pas dans le vrai. Mais ces enfants n'entendent jamais ça.
On est très inquiets.
Marie-Georges Buffet.
Le Premier ministre aussi. Hein. Les ministres qui étaient présents, il y avait d'autres ministres tout présents. On échange, on est inquiets. Bon, puis après, on se dit le match se démarre et puis on a cette réaction... un peu banal, mais bon, maintenant, c'est place au sport, vous savez l'expression, place au sport.
Plus ça allait, plus, en fait, c'était extrêmement facile. Et donc, c'était l'assurance de la victoire. Quand vous êtes joueur, vous êtes concentré. Et puis, vous essayez vraiment de donner le meilleur de vous-même pour vraiment affirmer votre supériorité. Et dans ce match-là, c'est ce qui a été fait.
Ils n'ont pas marqué 4 buts comme ça pour le plaisir, hein. Ils ont joué vraiment sérieux. Nous, on leur a fait une opposition sérieuse, même si on a connu des petits soucis ce jour-là de gardien de but, parce qu'il n'était pas très en forme.
Omar Belbey.
La France, je crois que de mémoire, avait eu un ou deux matchs un petit peu compliqués juste avant. Voilà, donc ils devaient un peu se remettre dans le droit chemin. Et puis ça a été contre nous. On a énormément souffert, parce que quand la France a décidé de vous priver de ballon, c'est compliqué.
J'étais au stade avec une de mes filles. Je m'en rappelle très bien. La France, évidemment, comme on pouvait le penser, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1. Et puis, je crois que c'est un quart d'heure avant la fin, on voit tout d'un coup, hop,
Gilles Smadger,
une jeune femme, après, la première à rentrer sur le terrain. Et puis, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est... Pour moi, c'est un coup au cœur, quoi. C'est de la tristesse. C'est comme un espèce de truc qui s'effondre, quoi.
Elle avait un jean bleu ciel avec le maillot de l'Algérie. Et je la vois passer devant moi. Et sur le coup, concentré sur le jeu, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, en fait? Et tout le monde joue, tout le monde court. Tout le monde est intéressé par le jeu. Tous les joueurs, que ce soit l'équipe de France, l'équipe d'Algérie. Et puis elle traverse le terrain et en fait c'est les stadiers qui nous font percuter que y a un truc pas normal qui se passe en fait.
les stadiers, ils ont dû courir derrière la personne, comme on voit dans les matchs, parce que ça arrive pas souvent quand même. Et puis là, tout d'un coup, on voit un deuxième, un troisième.
4, 5, 6, 10, 20. Et puis alors, après, c'était terminé, quoi. Puis de là, c'est parti en vrille, quoi.
J'étais vraiment un peu dégoûté, moi, de cet envahissement de terrain. Mais j'ai jamais ressenti de violence dans le stade, ni de danger, ni de... J'étais avec un copain, sa compagne qui était enceinte de, je sais pas, 6 ou 7 mois. On n'a pas du tout été bousculé, on n'a pas du tout ressenti de tension, j'allais dire, violente.
Mouloud Haddad.
Bon, ça a commencé par une personne, deux personnes, 10 personnes, 100 personnes. Mais voilà, on arrête... c'était un peu pour préserver, un peu comme si c'était pour préserver l'équipe d'Algérie d'une défaite encore plus cuisante, pour dire faisons la fête au-delà du football et on arrête là.
À 1-1, il n'y a pas d'envahissement de terrain. Mais à 4-1, là, il y a un problème. C'est le fait que les Algériens ne veulent pas être humiliés. Voilà, tout simplement. Ils se disent voilà, on a l'air de quoi, 4-1, et puis bientôt ça va être 5-6. Et donc, ils veulent arrêter ça.
Ils nous demandent tous de quitter le terrain. Et je dois avouer que j'ai pas envie de quitter le terrain, en fait. J'ai envie juste de leur dire, mais attendez, vous faites n'importe quoi, vous rendez pas compte de ce qui se passe, là. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à un jeune homme que j'attrape, parce que lui, il croyait que je voulais le taper ou je sais pas quoi, mais je voulais juste être un adulte.
Lilian Thuram.
Qui est en train de parler à des enfants en disant, mais oh, vous pouvez pas faire ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, en fait. C'est-à-dire que la lecture politique, mais c'est une lecture mais désastreuse, en fait. Parce que quand vous êtes au contact des jeunes, vous voyez bien qu'il y a des sourires, qu'il n'y a aucun moment de danger. D'accord ? Vous ne vous sentez pas en danger. Vous voyez des jeunes qui courent, qui rigolent. En fait, ils sont contents d'être sur le stade. Mais à la télévision, bah, je sais très bien que ce n'est pas cette lecture-là, en fait. Et je sais très bien que ça va réveiller des relents racistes, en fait. Et je sais très bien que si c'était, je sais pas moi, un match aller contre l'Espagne, s'il y a les mêmes événements, la lecture est différente. Là, l'Algérie, ah ben alors là, ça je savais que ça allait partir en vrille, en fait.
J'avais invité un ami algérien qui est originaire de la même ville que moi, d'Annaba, qui habite à Saint-Denis. Je l'avais invité avec un copain à lui. Et donc, quand on a vu ça, mais c'est vrai, au départ, on était heureux, on était contents, on se congratulait, on disait c'est génial, la France et l'Algérie. Bon, voilà, peu importe le résultat, c'est pas ça qui compte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on était contents. Et là, tout d'un coup, de voir ça, de voir la tournure que ça prend...
Gilles Smadja.
Et là, bah, on était consternés. Donc, mon ami algérien était aussi consterné que moi, évidemment. Quel gâchis. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour en arriver là. Et tout d'un coup, le sentiment que finalement, on recule, d'une certaine manière. On voulait avancer pour donner un coup de pouce au renouveau de l'Algérie après tous les drames que ce pays a connus. Et là, on régresse parce que tout d'un coup, on fait émerger d'autres enjeux, d'autres questions sur la scène politique française, des enjeux intérieurs. Et donc, évidemment, on savait très bien que ce match allait servir, allait être le point d'appui pour parler d'autres choses, pour parler d'autres questions et qui, en plus, dans un contexte où on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On essaye d'utiliser ce qui s'est passé à la fin du match pour porter un discours d'exclusion, un discours qui vise à cliver et qui vise à opposer une partie de la population à une autre partie de la population. Mais je pense que ces événements-là ne disent pas ça.
Vous voulez savoir quoi exactement ? Qu'on a la haine, que je suis algérien, que j'ai un peu la honte de voir ce qui se passe, parce qu'on est venu voir un match, on connaissait un peu le résultat, on sait que l'équipe algérienne n'est pas assez bonne, on est venu pour la supporter, pour supporter aussi l'équipe de France, on remercie beaucoup la France de nous avoir accueillis, et on est vraiment désolé de ce qui s'est passé ce soir. Ce qu'il faudrait retenir, c'est de ne pas mettre tous les Algériens dans le même sac, il y a du bon, du mauvais partout, On n'oublie pas qu'en France, il y a l'extrême droite, qui fait pas du bien aussi. Donc voilà, encore une fois, désolé, et on s'excuse de ce qui s'est passé.
Il y a certains sondages qui sont faits, notamment un sondage Ipsos, après ce match, qui révèle qu'une semaine après les faits, 56% des Français jugent ces incidents graves car ils témoignent des difficultés d'intégration d'une partie de la population d'origine musulmane.
Stanislas Frankiel, historien.
Donc on voit que le débat peut-être passe un peu plus sous l'angle religieux, plus que sur le côté social. Il semble quand même que la xénophobie se reconfigure et devienne désormais de l'islamophobie. Une suspicion permanente sur le fait d'être musulman qu'on va retrouver dans la société française à certains niveaux, mais qu'on va retrouver aussi dans le monde du football professionnel et le monde de l'équipe de France.
Décidément, le final raté du match France-Algérie tourne à l'affaire d'État. Après l'envahissement de la pelouse par les supporters algériens samedi soir, les réactions ont été nombreuses, non seulement dans le milieu du football, mais aussi dans le monde politique. Lionel Jospin, lui-même, a tenu à s'exprimer sur ce match controversé. Mission apaisement. Écoutez.
Un certain nombre des événements qui se sont produits étaient regrettables et contrariants. Tout cela doit nous rendre attentifs. Je pense en même temps que dans l'esprit de ce que nous avons dit, le refus de l'amalgame entre le terrorisme et l'islam, le refus du choc des civilisations, le refus d'un conflit qui serait le nôtre avec le monde arabo-musulman, il faut se garder d'accentuer ces choses. Il faut les laisser à leur proportion. Proportion d'événements auxquels, malheureusement, un certain nombre de spectacles sportifs de masse nous ont déjà habitués.
Jusque-là, on était encore peut-être bercé dans l'illusion que le sport pouvait intégrer toutes les populations, quelles qu'elles soient. Mais on voit que le problème est sans doute plus complexe que cela et qu'on ne peut pas intégrer une jeunesse immigrée uniquement en utilisant le football, en utilisant le talisman quelque part du football, en utilisant ses effets magiques. Notamment depuis le début des années 80, on lui avait attribué des qualités hein, au sport, des sociabilités nouvelles, baisse de comportement violent, estime de soi, le lien social. Mais on voit que ça n'est plus possible d'utiliser que le sport pour tenter d'intégrer la jeunesse. Le sport étant l'arbre qui cache la forêt, et la forêt c'était ce sentiment de ne pas être connu, ce sentiment d'être un Français de seconde zone en France. Donc cette intégration était vraiment une intégration de surface, et là je crois que ça a été vu dans le monde entier à l'occasion de ce match.
Je crois que c'est un point de rupture. Le match
Mouloud Haddad
va être ensuite décortiqué, analysé, disséqué par les médias et par les politiques, déciflé de la Marseillaise jusqu'à l'envahissement du terrain. Et on va se servir de ce match pour montrer qu'il y a toute une frange de la population qui est en défaut d'intégration, qui est en défaut d'amour de la France, qui est en défaut de tout, pour démontrer tout le contraire de ce qu'on a essayé de montrer en 98. Et si on veut essayer d'établir des continuums dans les mêmes zones, dans les mêmes territoires qu'on a eu de ce match, 4 ans après, on a des émeutes, les émeutes de 2005, qui ont touché quand même nombre de quartiers, la Seine-Saint-Denis en particulier, mais pas que, beaucoup de quartiers en France, qui là aussi ont alimenté encore cette idée que, de fracture de la France et de quelque chose qui n'a pas marché, donc d'une rupture entre certains territoires, que d'aucuns diront perdus, de la République, avec finalement le pays tel qu'il a rêvé de se construire après-guerre. Et la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002 n'est évidemment pas due aux incidents du match France-Algérie, mais le match France-Algérie est sûrement un des ingrédients qui ont permis aux candidats du Front National d'être historiquement présents au deuxième tour de cette élection présidentielle. Évidemment, avec les thèmes immigration, islam, insécurité, qui ne font qu'un en réalité, depuis maintenant plus de 20 ans, sur la scène politique française.
I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, or made you leave your key. If I'd have known for a second you'd be back to bother me. Go and go, walk out the door, turn around now. You're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye.
France de juillet 98, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Peut-être d'ailleurs qu'on lui a fait dire des choses de manière exagérée. Vous vous rappelez les discours, l'ambiance, la France black blamber, la France multiculturelle.
Gilles Smadja.
Mais d'une certaine manière quand même, moi j'étais sur les Champs-Élysées le soir de la finale, le 12 juillet 98. Et c'est vrai, on voyait la population française dans ses diversités. Elle, c'était extraordinaire. Toutes les populations, des quartiers, toutes les couleurs de peau. Voilà, ça c'est la France. C'est toujours la France d'aujourd'hui. Et je crois que ce discours-là, qui était de dire que l'équipe de France de foot, peut-être, avait d'une certaine manière révélé ça. Elle avait contribué à ce que ça s'exprime dans l'espace public. Et pas n'importe où, sur les Champs-Élysées. Et donc, je pense que ceux qui contestent cette idée-là, je pense que ceux-là, à l'occasion de ce match, ils ont voulu prendre leur revanche. Et ils ont voulu effacer totalement le discours, tout ce qui se disait après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Dans un cas, peut-être qu'on est allé trop loin dans les théories sur « ça y est, la France a réglé grâce au foot des tas de problèmes ». Non, c'est pas vrai. Le foot ne règle pas les problèmes sociaux, économiques, tout ça. Non. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a eu une photographie de la société française qui était une belle photographie. Et 2 ans après, 3 ans après, il y a un autre discours qui se met en place qui est tout aussi exagéré et qui est tout aussi très contestable, mais qui vise en quelque sorte, d'une certaine manière, à effacer complètement l'idée que d'une intégration possible, d'une société multiculturelle possible. Je crois que c'est ce qui explique la virulence des réactions après France-Algérie.
Je pense que la victoire et ce slogan a été quelque chose d'important pour légitimer des discours qu'on n'entendait pas, c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser l'égalité, est-ce qu'on peut parler de l'histoire de la colonisation, est-ce que on peut se dire voilà, l'équipe de France a gagné, il y a des personnes de couleurs différentes, de religions différentes, d'origines différentes. S'il y a ces types de personnes en équipe de France, pourquoi on ne les retrouve pas ailleurs? Je pense que ça a légitimé certains discours. Mais de là à croire que les choses allaient changer radicalement, il faut être d'une grande naïveté.
Lilian Thuram.
Ou il faut ne pas subir le racisme ou la discrimination dans la société pour vraiment croire que, en fait, que du jour au lendemain, les choses vont changer. Lorsqu'il y a ce match-là, ben, évidemment, vous oubliez France 98. Parce que ça réveille ben, la peur. Parce que d'ailleurs, le discours des partis d'extrême droite, c'est quoi? C'est réveiller la peur. Et donc, lorsque vous regardez un match à la télévision et que vous voyez des jeunes qui envahissent le terrain, la première des choses, ben, vous avez peur. Parce que vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis personnellement, moi, j'ai pas eu peur. Mais c'est lié à une histoire extrêmement personnelle. Et surtout, je vois bien les sourires. Parce que si j'avais eu vraiment peur, ben, je serais rentré. Je serais pas resté discuter avec le jeune. Si je prends le temps de rester discuter avec lui, c'est à aucun moment je me sens en danger. Et je pense que le discours politique, le discours médiatique a tourné autour de la peur, en fait. Ils font peur. Et puis, dans l'inconscient collectif, oui, les Algériens font peur. Mais on sait pourquoi ils font peur. On sait pourquoi ils font peur. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, effectivement, où en fait, ben, la France a colonisé l'Algérie et l'Algérie a résisté et l'Algérie a gagné la guerre. Donc, dans l'inconscient collectif, ben, ça reste. Vous prenez toutes les ex-colonies françaises. En fait, les populations qui viennent des ex-colonies françaises ne sont pas vues comme les Algériens. Je pense qu'en France, la peur de l'Algérien est beaucoup plus aiguë que la peur de n'importe qui d'autre.
Est-ce qu'il y avait à l'origine un enjeu sportif ? Non, c'était un match amical. C'était d'abord un enjeu
Marie-Georges Buffet.
Politique, de marquer que la France et l'Algérie, à travers un match de foot, le sport le plus populaire, allaient vers une réconciliation. Voilà, c'était ça. On lui a fait porter beaucoup trop de poids, c'est-à-dire c'est une erreur qu'il ne faut plus refaire et qu'on refait, c'est de demander au sport d'être un instrument politique. Le sport ne peut pas et ne doit pas être un instrument politique. Le sport, c'est un très beau spectacle. C'est très bien pour le bien-être des individus. C'est très bien pour le vivre en société. Tout ça, c'est très bien. Point. Le sport ne peut pas régler les maux de la société.
France-Algérie, le match impossible. Avec Gilles Smadja, ancien chef de cabinet de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France de football. Mouloud Haddad, sociologue. Omar Belbé, ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football. Stanislas Franquiel, historien. Et Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci à Olivier Margot. Archivina, Stéphanie Place. Mixage, Guillaume Ledu. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Thomas Duterre. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.